Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be, mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
Radio Panique
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, Nantes, 92.1.
Radio Larzac.
Sur
87.8.
Et 98.6.
48 FM.
48 FM sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône.
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Des concerts à bolo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat.
Débat.
Débat sur Radio Esperanza. Débat. Débat.
La démocratie, oui, mais comment ?
Imaginez une démocratie dans son véritable sens du terme.
Sans le pouvoir des multinationales, sans le tout à l'argent et au rendement.
Et pourquoi pas tout simplement demander l'avis des citoyens ?
Une démocratie plus participative est-elle possible ?
C'est le débat d'aujourd'hui sur Radio Esperanza, radio.esperanza.be, avec des invités. Donc on a Marco, Seb et Yann. On vous demandera de vous présenter peut-être un peu plus tard, mais en tout cas on parle de démocratie participative, c'est ce qu'on a envie de parler aujourd'hui, mais peut-être de partir du terme de démocratie. La démocratie, oui, comme on l'a dit, mais comment ? À savoir qu'au départ, la démocratie, dans sa définition première, en grec ancien, c'est quand même souveraineté du peuple. Où en est-on aujourd'hui ?
Voilà, donc l'idée, c'est dans l'immédiat, peut-être un peu essayer de définir pour chacun de vous, du moins, ce que veut dire le mot démocratie, qu'est-ce qu'on entend par démocratie au sens général, et puis nous faire part un petit peu de, en fonction de vos expériences et de vos implications, notamment ici dans le festival, voir quelle est la réalité de cette démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui en Belgique ou à travers d'autres expériences, on le verra au cours du débat. Par qui est-ce qu'on commence ?
Moi, je veux bien commencer.
Marco.
C'est Marc. Mais oui. Elle est donc démocratie, en fait, tout simplement pour revenir aux origines, c'est grec, hein, la démocratie a été fondée à Athènes il y a plus de 2000 ans. Démocratie, c'est ça, démos kratos, le pouvoir du peuple. Donc la démocratie, c'est normalement le système où le peuple est au pouvoir. Et alors, je vous entends vous demander de définir, mais c'est très intéressant d'essayer de définir la démocratie. En fait, il y a plusieurs grands scientifiques, politologues qui s'y sont essayés. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils arrivent tous à des définitions différentes. Il y en a qui disent une démocratie, c'est un endroit où il y a un vote, où on décide à la majorité, où les élections sont libres, ou ceci ou cela. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est très difficile à définir. Et la raison, elle est assez simple, c'est que démocratie, Lincoln a dit, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et ces trois petits mots, de, par et pour, on peut les interpréter d'une manière terriblement différente. Et donc, définir la démocratie, je pense, moi, en tant que... mes études de sciences politiques, elles m'ont fait arriver à la conclusion que c'était impossible de donner une définition terminée, unique de la démocratie.
D'autres avis, d'autres sensibilités par rapport à ce mot-là ?
Ouais, moi, pour moi, la démocratie, c'est une manière de, effectivement, tenter de gérer, d'organiser la vie ensemble, la vie en société. C'est un modèle parmi d'autres. Il y en a d'autres qui existent, il y en a d'autres qui auraient pu s'imposer ou entre guillemets être proposés. Et on a tendance souvent à dire que c'est le seul système qui fonctionne le mieux. On nous dit on n'a rien d'autre. Souvent, c'est ce qu'on dit de la démocratie. Vous avez quoi d'autre à la place si la démocratie elle n'est pas totalement transparente, égalitaire, vas-y, propose autre chose. Souvent, c'est ça la question. Et donc pour moi, voilà, c'est un système qui petit à petit s'est mis en place, qui faut le remettre aussi dans le contexte de l'émergence des États-nations, c'est-à-dire le fait qu'on a délimité des frontières, qu'on a mis des pays, qu'on a dit tel pays passera par là, aura tel territoire, telle étendue, et on va administrer en tant que pouvoir la manière dont vivent les gens ensemble de telle manière. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Et je pense qu'aujourd'hui la démocratie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire soi-disant ou en partie représentative, elle est caduque. Elle correspond plus aux besoins actuels des peuples.
Elle est périmée, quoi.
elle est en passe de l'être.
Moi, je veux bien rajouter un petit mot, parce
Marco,
que Seb...
avant que...
pardon, après, Yann, tu parleras autant que tu veux. Mais sur l'histoire de la démocratie, c'est vraiment intéressant de revenir aux origines. Donc, la démocratie, elle était athénienne. Elle a été fondée en Grèce. C'est très intéressant, le système qui était proposé, notamment au centre du système démocratique grec. C'était pas comme on connaît aujourd'hui les élections, mais le tirage au sort. Et ça, je peux y revenir, en parler en long et en large. C'est vraiment un système qui a beaucoup de qualités, même d'autres diront... La démocratie grecque, les femmes et les étrangers en étaient exclus. Mais voilà, on va pouvoir débattre de tout ça. Et autre chose sur l'histoire, quand on est revenu aux démocraties représentatives telles qu'on les connaît, Révolution française, Révolution anglaise, il y a quelque chose de très important, et pour moi c'est une des clés de compréhension du mal-être qu'on peut ressentir par rapport à nos démocraties actuelles, c'est de se dire qu'à ce moment-là, ils ont voulu substituer le pouvoir hérité par le sang. Ils ont voulu faire un pouvoir hérité par le mérite et non pas hérité à chaque citoyen. Parce qu'on est citoyen, on aurait droit à une voix. Mais ce sont en fait les nobles et les bourgeois qui ont... Voilà, il y a des têtes qui sont tombées, les rois sont tombés. On n'allait plus
pas
hériter le pouvoir, pas tous effectivement. Mais on n'allait plus hériter le pouvoir par le sang, mais on allait élire les meilleurs. Et ça ne veut pas dire que tous les citoyens étaient conviés à décider. On avait décidé que ce soit les meilleurs qui décident. Et ça, c'est vraiment important à retenir parce que je pense que c'est une des clés de compréhension du mal-être qu'on peut ressentir actuellement. On ne se sent pas tous impliqués parce qu'on est censé envoyer les meilleurs. Voilà, je lance ça.
Yann. Allez, à toi Yann,
ça,
maintenant.
Ça me recoupe un peu de ce que j'allais dire. Effectivement, je rejoins pas mal ce que Marco a avancé. Moi, ce que j'aime bien toujours aussi mettre en avant, c'est que la démocratie, c'est pas... Tout en ayant des définitions très différentes, c'est pas quelque chose qui à un moment est là, qui existe, où on peut pas parler de système démocratique, mais je préfère parler de processus démocratique, dans le sens où c'est quelque chose qui doit toujours être en approfondissement permanent. On a eu un système démocratique qui s'est mis en place, et aujourd'hui on en voit concrètement les limites, effectivement avec ce malaise on peut parler, et bien justement peut-être qu'aujourd'hui il faut pouvoir aller plus loin, en gardant les mêmes principes, de dire en fait, on est tous égaux, on est citoyens, à égalité, on décide des choses qui nous concernent. Ce qui serait en tout cas les bases de la démocratie qu'on peut retrouver dans pas mal de définitions. Et après, c'est la question des systèmes. Comment est-ce qu'on envoie les meilleurs? Est-ce qu'on envoie les meilleurs? Est-ce qu'on les tire au sort? C'est là-dessus qu'on peut toujours aller plus loin pour éviter justement ce malaise permanent. Et moi, là où ce que je trouve vraiment important, c'est de dire voilà, on est tous égaux, on décide tous ensemble, quoi. Et on n'envoie personne les meilleurs. Et ça, là, c'est la clé du système qu'on a trouvé, quoi.
Alors, on a parlé de malaise un petit peu dans tous les cas. Vous avez tous un peu parlé de ce sentiment de gens pas d'accord, de mal-être, etc., vis-à-vis de la démocratie. Concrètement, un exemple de mal-être ou de malaise que provoque la démocratie, selon vous ?
La démocratie actuelle.
Ouais,
la démocratie actuelle, telle qu'on la vit, nous, pour parler de quelque chose de présent, on va dire.
Notamment dans le cadre du système électoral soi-disant représentatif, on parle d'élus. Moi, je n'ai pas élu le boss de Total, je n'ai pas élu le boss de telle ou telle multinationale, je n'ai pas élu le boss de tel consortium de banque, de telle fédération de lobbyistes pour... aller dire aux parlementaires européens à Bruxelles comment est-ce qu'on allait appliquer certaines législations. Je ne les ai pas élus. Et donc là, c'est clairement une limite. Pour moi, c'est, aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce pouvoir centralisé par une minorité qui aujourd'hui n'est plus, on va dire, avec les populations, avec les peuples, que ce soit ici ou ailleurs, qui n'est plus à la base et ne réfléchit plus en termes de décision politique à partir de la base, montre clairement une limite de la démocratie en partie représentative telle qu'elle est aujourd'hui, parce que ça montre qu'il y a un hiatus énorme qui s'est créé entre ce que les gens veulent, ce que les gens vivent, ce que les gens désirent, ce sur quoi les gens se questionnent, et les décisions qui sont prises en haut. Et rien que ce terme de « en haut » montre assez bien l'éloignement qui peut exister entre la majorité des gens qui vivent, simplement, tous avec leur situation particulière, et une minorité qui prend des décisions censées organiser la vie pour le bonheur de tous et toutes, et en fait qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas, et qu'aujourd'hui, la manière dont cette démocratie soi-disant représentative c'est petit à petit imposé, pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé, c'est structurel, que ça s'est amené, mais montre qu'aujourd'hui, clairement, les choix et les envies des gens ne sont pas représentés toujours par les décisions qui sont prises pour, soi-disant, administrer la vie entre nous.
Et donc, du coup, le citoyen ne s'intéresse plus à la chose politique et commence un peu à ne plus comprendre donc, et à s'éloigner, à dire de toute façon ça sert à rien, et à faire un vote, des votes, comment on appelle ça, des votes de
des votes blancs.
Mais c'est même pas des votes blancs, ça va plus loin que ça, c'est des votes, je vais voter FN par exemple en France ou Vlaams Belang en Belgique, parce que de toute façon ils n'arriveront pas au pouvoir, et ça montre un vote de contestation.
Mais avant le vote des extrêmes, que ce soit l'extrême droite, moi j'ai envie, et quelque chose qu'on oublie souvent, le premier parti européen, avant le Front National, le Parti Socialiste, les centristes, la droite, etc., le premier parti européen, tout pays confondu, c'est le parti des abstentionnistes. En fait, et moi j'ai bon de penser, et je suis persuadé de ça, c'est que les gens ne sont pas bêtes. Et ils comprennent, comme Sébastien l'a dit, qu'à certains moments, les politiciens soit sont corrompus, soit ont été dominés par un pouvoir financier économique. Et donc les gens ne vont plus voter, tout simplement. Et ce système, allez, on élit des gens, mais quand 60% des personnes ne vont pas voter, et qu'on est représenté, allez, les gens qui nous représentent, seulement 40% ont été les élire. Mais quelle est la légitimité de ce système? C'est vraiment la question de base. Et je crois qu'on doit, chaque fois qu'on est en débat sur la démocratie, rappeler ce poids de l'abstentionnisme qui est super fort, et qu'on oublie tous les sans-voix, tous les gens qui disent « Non, je ne vais pas voter », quelle que soit la raison, trouvent que ce système ne fonctionne plus. Voilà.
Yann.
Et donc, pour eux, il n'y a pas d'enjeu à aller voter. Et je crois qu'il y a quelque chose où il y a vraiment un décalage entre le discours, la démocratie, effectivement, on envoie nos représentants, ils nous représentent directement, et la réalité des faits. Ben c'est qu'en fait, on va voter une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Ben, ça, c'est une citation que Marco adore, mais c'est faire l'amour une fois tous les 6 ans, c'est pas avoir une vie sexuelle. La démocratie, c'est la même chose. Je crois qu'aller voter une fois tous les 6 ans, c'est pas vivre dans un système démocratique. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, le système qu'on appelle démocratique, c'en est pas un. C'est un système qui, effectivement, nous permet de choisir entre des gens qu'on sait pas trop comment ils sont arrivés à la tête des partis. Et ça, on peut en discuter aussi. Pour savoir, entre certaines personnes, le moins pire, une fois tous les 6 ans. Donc non, il n'y a pas vraiment de débat sur les enjeux politiques, il n'y a pas de débat permanent qui devrait avoir une émulation dans le débat public, qui devrait avoir de manière permanente et qui ferait qu'on pourrait s'approcher d'un système qu'on pourrait appeler démocratique.
Est-ce qu'on peut du coup concevoir une démocratie sans hiérarchie?
Peut-être. Je sais pas, faudrait tester.
Parce que jusque maintenant, on est en train de parler du problème du choix qu'on fait mais qu'on ne fait pas. Qu'on fait par défaut parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se proposent, d'autant plus qu'en Belgique le vote est obligatoire, et que du coup on choisit quelle que soit la raison, le moins pire, ou celui qu'on sait qu'il va pas gagner parce que de toute façon on n'a pas envie de voter, mais voilà, des gens qui sont au-dessus de nous, est-ce que à la place il y aurait pas une possibilité de trouver une forme de démocratie où il y a pas, qui est horizontale?
Il y a des exemples. Hein. Après, on va dire encore.
Sans tomber dans ce qu'on appelle le communisme. Enfin, je voudrais pas.
Ouais, c'est même pas une histoire de communisme. C'est une histoire de.
Etc. J'ai pas envie de.
C'est une histoire de vivre ensemble. Enfin, juste moi, un exemple qui me vient direct en tête. On va encore dire ouais, encore. Tu viens encore tes exemples de.
C'est vrai ça.
Gaucho, machin brol. Mais non, au Chiapas, les apatistes expérimentent depuis des années une manière de vivre ensemble qui n'est pas axée uniquement sur. Le pouvoir des uns par des autres. Ça ne veut pas dire absence de leader, ça ne veut pas dire absence de conflit, ça ne veut pas dire au contraire, une démocratie ne peut exister que s'il y a du conflit. Une démocratie sans conflit, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Or, la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui vantée par certaines personnes et un certain milieu politique, économique, a tendance à vouloir aussi casser ce conflit. Accroître les inégalités et reconnaître que on peut tous à un moment donné pouvoir pratiquer justement cet exercice de représenter les autres, prendre des décisions, réfléchir à la place et aux problèmes et aux envies et aux besoins des uns et des autres, et c'est ce qu'expérimentent les apatistes au Chiapas. Mexique depuis des années, avec un pouvoir tournant où il y a bien sûr des limites, et donc le truc de dire mais il n'y a pas d'autre modèle, c'est celui qui fonctionne le mieux avec toutes ses dérives. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est faux. Il y a plein d'autres manières d'expérimenter le vivre ensemble. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas les couilles d'essayer au niveau des États, des gens, des peuples et peut-être aussi des dirigeants. Enfin, s'ils dirigent encore quelque chose, c'est de l'admettre et en tout cas d'expérimenter. Mais ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de nous, de la base. Et voilà.
Je crois que c'est un mot justement important que Seb met en avant, c'est expérimenter. Aujourd'hui, on n'a effectivement pas un modèle clé sur porte qui nous dirait ça, c'est le système qu'il faut appliquer. moi je crois vraiment dans ce processus d'expérimentation de se dire voilà, chaque fois on doit pouvoir avancer d'étape en étape pour éliminer de manière successive toutes les couches hiérarchiques qu'on accumule. Et ben là on parle beaucoup aussi de société dans son ensemble, mais même dans notre vie plus quotidienne, dans nos implications associatives, nos boulots et tout ça, on est de manière permanente dans un système hiérarchique. Et là on peut beaucoup plus facilement expérimenter, de fonctionner de manière plus autogérée, plus horizontale. Et c'est des processus, en tout cas dans la manière de les penser, qui peuvent être transmis à plus grande échelle. Et on peut même amener à penser une société de cette manière-là. Et donc des exemples, comme disait Seb, il y en a quand même pas mal à différentes échelles, à différents endroits dans le monde, qui fonctionnent de manière horizontale, qui fonctionnent avec des pouvoirs tournants, avec des assemblées permanentes. Et donc on a des pistes. Maintenant, il faut pouvoir avancer dans ce sens-là et être prêt déjà à interroger notre propre modèle. Je crois dans notre vie quotidienne, quand on parle de démocratie dans une association, il y en a peu en Belgique qui se passe d'un conseil d'administration élu une fois par an, et encore une fois par an, c'est pas mal, par une assemblée où il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui va. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on doit interroger si on veut parler de processus de participation sans hiérarchie. Quoi.
Marco, tu voulais...
Il y a plein de choses à dire. C'est très riche ce que Seb et Yann viennent de dire. Pour avoir des expériences un peu moins exotiques que d'aller jusqu'au Mexique, mais pour les gens plus terre-à-terre qui aiment bien la politique comme elle se passe en vrai, la Constitution en Islande, elle a été rédigée notamment par des citoyens en partie tirés au sort. Et alors, il y a eu tout un processus avec tous les citoyens islandais ont pu mettre leurs idées sur Internet pour rédiger la Constitution. Donc la Constitution, qui est la loi des lois, chaque citoyen islandais a pu exprimer son avis et toute une série a été tirée au sort pour la rédiger. Ça peut nous paraître fou et pourtant ça a marché. Donc des exemples, il en existe. Alors, c'est certainement pas des exemples clés sur porte et on doit pas tout prendre, on n'a pas la solution, mais en tout cas, on sait vers où on doit aller. Il faut de la volonté, Seb a dit, il faut des couilles. Moi, je pense aussi que le système dans lequel on est ne pousse pas l'innovation, parce que le système politique, et j'en fais partie parce que je suis conseiller communal dans une petite ville, donc j'en fais partie vraiment à la plus petite échelle, mais c'est vraiment un monde de privilèges et de sélection, et quand on y est, on a envie d'y rester. Et ça, je pense que c'est un des verrous qu'il faut faire sauter, c'est que ce système politique soit tournant et que ce pouvoir cesse d'être accaparé par des élus.
Oui, mais alors, on peut se dire que quand même, il y a un côté de la nature humaine. C'est la nature humaine, tu veux toujours plus, et tu vas peut-être écraser l'autre pour finalement...
L'homme est un loup pour l'homme.
Oui, c'est voilà, ça. Mais c'est... c'était bien, enfin, c'était pas bien, non, mais voilà, l'état de nature, on va pas revenir là-dessus, on pourrait, hein, avec le contrat social et tout ça. Et puis, une fois qu'il y a un contrat social, tout le monde est juste parfait. Mais voilà, est-ce que... Comment faire changer? Alors, il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais voilà, le système est tel qu'il est aujourd'hui, qu'il y a... Alors, on parle de politique et de citoyens. On oublie ce qu'on a dit au début, qu'il y a les lobbies aussi, qu'il y a les multinationales et compagnies au milieu qui agissent. Et alors, on se demande à un moment, voilà, en tant que citoyen, est-ce qu'on n'est pas un peu sans moyens pour agir?
Il y a deux questions différentes. Hein. Tu parles de la nature humaine, et moi je trouve ça intéressant parce que le débat sur la démocratie, c'est un vrai débat philosophique, et on va essayer de ne pas faire chier les auditeurs, mais c'est voilà, on peut vraiment remonter aux racines du truc et se dire voilà. Mais sur la nature humaine, moi je pense que l'homme, il est ni bon ni mauvais. Par contre, et j'ai envie de prendre un petit exemple avec le système économique, actuellement on vit dans un système dit capitaliste, et le capitalisme, il fonctionne sur quoi? Sur le fait que l'égoïsme de chacun va faire le bien-être de tout le monde. La richesse de tout le monde. Mais, et on voit comment ça tourne actuellement, ce modèle, personne n'en a envie. Franchement, il a beau avoir 2-3 avantages, on n'en a plus envie, on a envie de passer à autre chose. Et dans le système politique, je pense qu'on peut mettre en place un système qui mettrait en avant les qualités des gens. Par exemple, vous allez demander à une petite grand-mère ici, en sortant du Festival Esperanza, « Madame, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'il faut prolonger les centrales nucléaires en Belgique ?» La dame va vous regarder avec des grands yeux, elle va se demander ce que vous lui voulez. Mais en fait, moi je pense sincèrement, et tout bon démocrate selon moi doit penser la même chose, que chaque personne est capable de donner son propre avis sur une question aussi compliquée puisse-t-elle paraître. Mais si on dit « non, la question est trop compliquée », alors laissons-nous gouverner par des experts. Non, chaque question, on est capable de se l'approprier, et je pense que la vraie pensée démocratique, c'est celle-là, c'est pas « il y a des meilleurs qui savent mieux que nous ». On doit être tous capables de décider sur tout, et ça veut pas dire aller faire un sondage dans le bas de la ville sur la peine de mort, parce que non, c'est vraiment un avis informé, réfléchi, en débattant entre nous, et ça c'est une vraie démocratie, et moi je crois que la démocratie, je pense, c'est mon avis personnel, je sais pas si Sébastien et Johan seront d'accord, pour moi c'est le meilleur système, Par contre, ce mot actuellement est galvaudé. Pour moi, on ne vit pas en démocratie, mais c'est vers la démocratie qu'on doit aller. Et c'est ça aussi, je pense, tout l'avantage de nos adversaires, c'est qu'ils ont un mot qui est difficile à combattre tellement il fait l'unanimité et pourtant on veut autre chose.
Ouais, je partage ce que tu dis hein, à moitié sur le fait que c'est peut-être le meilleur système, mais que tu termines ta phrase en disant « mais c'est pas le cas actuellement ». Donc j'aurais pas été d'accord si t'aurais dit que c'était le cas et que ça fonctionnait. Ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne pas. Et si la vraie démocratie, enfin les indignés espagnols du 15e parlaient de démocratie réelle, c'est-à-dire vécue, expérimentée, et aussi dans lequel chacun et chacune va se retrouver, va retrouver le fait que ses choix sont à un moment donné appliqués, enfin où il y a un impact. Donc, je suis d'accord, sauf que je pense que la démocratie réelle, elle n'a pas encore existé actuellement. Mmh. Peut-être que c'est le meilleur système, mais que ceux qui disent que c'est le meilleur système et qui aujourd'hui le galvaudent aussi, reconnaissent qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Or, ce n'est pas le cas. Et deuxième truc, je suis assez d'accord aussi sur l'idée qu'on a donné les clés de la gestion de la société à des soi-disant experts politiques et qu'on a fait de la politique un truc d'expert, de carriériste, on en a fait un métier. Manger, c'est politique. Se déplacer, c'est politique. Mm-hmm. Élever des enfants, c'est politique. C'est des choix.
Oui, vivre
est politique, mais c'est des choix de vie. Et le truc de confisquer, entre guillemets, cette créativité, cette envie de juste de gérer sa vie personnelle et collective et familiale, de la confier à des gens qui sont censés du coup le faire pour notre bien et qui en fait finissent par le faire pour autre chose que la collectivité, ça a été une dérive de la démocratie actuelle. Et on en a fait un métier qui ne fait plus tout ce qu'il fait et on est tous politiciens entre guillemets. Eux c'est des politiciens, nous on est des politiciens. Voilà.
C'est joli. Alors, dans quelques instants, on va s'écouter un petit peu de musique, mais je propose, après la pause musicale, qu'on vienne un peu sur l'expérience dont tu m'as parlé aux antennes juste avant le débat, en fait, par rapport à, par exemple, l'autogestion, qui est aussi une alternative de vie commune à très petite échelle en général, mais un peu voir les conclusions que tu as tirées de cette expérience-là par rapport justement à ce principe de démocratie, prise de décision, pouvoir, hiérarchie, etc. Donc je propose qu'on revienne là-dessus, si t'es d'accord.
Avec plaisir.
Après une petite pause musicale. Each step adds to the pain. I'm walking my way out of trouble. I'm walking to find peace again. My shoulders are loaded with burdens, too heavy to bear their weight. Walking through the rain, I'm walking through the clay. I'm walking, no matter what they say. It's a tough road. There are too many potholes and obstacles. It's a tough bumpy road, but my shoes are made of strength and hope. My shoes will carry me home. I'm walking daunted by failure, frightened to fall again. I'm walking down the canyon, I'm walking over hills, I'm walking through the desert to find my oasis. I am walking, I'm walking, I'm walking. Yes, I am. It's a
course. It's a tall and bumpy road, but my shoes are made of strength and hope. My shoes will carry me home.
Pause musicale toute douce pour revenir avec trois barbus hein, dans le studio. Donc juste avant la pause musicale, on était en train de se dire, qu'on aurait pu parler peut-être de toutes vos expériences individuelles, que ce soit dans ce que vous avez mené avant ou dans le projet que vous soutenez ici sur Esperanza. Je voulais commencer par Yann. Que tu nous as parlé juste avant, donc tu avais fait un peu le tour du monde, enfin de quelques régions du monde, pour aller observer, étudier, vivre dans des milieux autogérés. Donc par rapport à ce problème de prise de décision dont on se plaint beaucoup, etc., qu'est-ce que toi tu as pu conclure? Qu'est-ce que tu as pu observer? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a du mieux, du pas mieux?
Effectivement, j'ai eu la chance de faire un tour. En Espagne, en Amérique latine, pour aller voir des expériences autogérées, ou en tout cas des expériences qui fonctionnent de manière non hiérarchique, collective. On avait une vingtaine d'expériences sur laquelle on a fait une série de reportages. Et donc voilà, l'autogestion, démocratie, pour moi ça pourrait être synonyme, en tout cas, l'autogestion c'est un mot qui peut avoir autant de sens que la démocratie sans doute. Le principe important que moi je mettais derrière, c'était que les décisions soient prises collectivement par les personnes concernées par les décisions. C'est assez simple, donc ça veut dire que les personnes dans les quartiers, ce soit elles qui prennent les décisions qui concernent le quartier. Pour une ville, c'est les citoyens de la ville. Dans les entreprises, ce soit les travailleurs. Dans une école, ça peut être co-géré par les élèves et par les professeurs. Et donc, on a vu des expériences qui sont très différentes, que ce soit des entreprises, des écoles, des villages. Qu'est-ce qu'on en ressort? Déjà, que je suis convaincu plus que jamais, après avoir vu toutes ces expériences, que c'est possible de fonctionner autrement, que c'est possible de fonctionner de manière non hiérarchique. Et on a vu vraiment des systèmes qui sont très différents. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait une bonne recette pour arriver à un système non hiérarchique, pour arriver à un système démocratique, autogéré, quel que soit le mot qu'on a envie d'utiliser. On a esquivé quelque chose en parlant tantôt de systèmes tournants, de mandats limités dans le temps, des mandats impératifs, c'est-à-dire que les personnes élues puissent uniquement faire ce que l'Assemblée a donné comme mandat. Ou alors, Marco parlait tantôt du tirage au sort. C'est toutes les choses qui sont mises en place dans des collectifs, dans des usines, dans des choses qu'on a pu voir, qui fonctionnent. Je crois que c'est vraiment aussi très contextuel, la manière dont a pu surgir un lieu, a pu surgir une dynamique. Moi, par exemple, si on parle de démocratie, plutôt ce qu'on connaît au niveau public, que ce soit au niveau d'une nation, au niveau d'un village. En Espagne, on a été voir Marina Leda, qui est une ville de 3000 habitants. C'est intéressant, ils sont dans un système classique, le système espagnol. Et malgré ça, y a des assemblées de manière régulière, avec malgré tout, il y a un maire, il y a des conseillers communaux, qui délèguent quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir aux assemblées de citoyens qui réunissent tous les voisins, où il y a toute une série de décisions qui sont prises, les budgets se discutent dans les quartiers. Voilà, c'est des choses qui sont possibles à faire. On a parlé des indignés du 15e, c'était aussi intéressant parce que c'était des assemblées de plusieurs milliers de personnes qui se tenaient sur des places publiques, sans hiérarchie, avec une gestion par consentement, donc réussir à prendre une décision par consentement sans opposition de personne, avec 3000 personnes, il faut arriver à des mécanismes et donc à développer des méthodes de participation extrêmement développées et qui existent aujourd'hui. Il y a quand même toute une série de choses qui sont mises en place. On parle souvent de la sociocratie, justement. C'est une méthode pour pouvoir prendre des décisions par
peut-être
consentement.
Peut-être faire un petit... c'est quoi la sociocratie?
La sociocratie, justement, c'est une... C'est compliqué toujours à définir, mais c'est une des méthodes qui existent aujourd'hui, qui est sans doute une des plus connues, pour prendre des décisions sans consentement. Et dans l'absolu, c'est surtout une méthode développée pour les entreprises ou pour les grandes associations qui permet au sein de la structure d'éviter justement la hiérarchie tout en pouvant être efficace. On peut rentrer dans les détails, mais ça pourrait faire une émission en tant que telle.
Mais entre autres, il faut l'unanimité pour qu'une décision soit prise. Voilà. Et donc, tant qu'il n'y a pas l'unanimité...
Il y a une nuance à apporter, c'est pas l'unanimité, c'est consentement et donc pas consensus.
Oui, voilà.
Il faut que personne ne soit opposé à la décision, donc que tout le monde puisse vivre avec la
que
décision.
Que tout le monde se retrouve dedans. En fait.
Voilà.
Tu voulais intervenir, Marco, parce que t'avais l'air pas sûr.
Oui, non, ben, c'est la nuance qu'il y en a apportée. La différence entre consensus et consentement. Consensus, on est tous d'accord. Consentement, personne n'est contre. Voilà, c'est vraiment une petite nuance. C'est plus facile d'arriver au consentement qu'au consensus. Voilà, et puis il y a plein d'autres systèmes. Mais c'était juste une précision. Voilà.
C'était Wilfried Martens hein, qui était très consensus.
Oui, ben, la Belgique c'était est connue truc, hein, comme consensus. Un système. Il y a un mot scientifique et c'est un système consensualiste, la Belgique. Hein, donc, le consensus.
Compromis à la Belge.
Voilà, le compromis à la Belge. Hein, exactement. Est-ce que c'est le meilleur système?
Oh, ben, oui.
C'est pas toujours le meilleur système, selon moi.
Juste un truc aussi par rapport à tous ces nouveaux mots, entre guillemets, qui émergent dans. Ce que certains appellent les nouveaux mouvements sociaux, ceux qui essayent de construire de la transition, des alternatives, des habitats groupés, des potagers collectifs et blablabla. Nous, on est attentifs, hein, moi dans la SEO où je bosse, on est attentifs aussi à un truc, c'est de veiller à ce que tous ces trucs-là, enfin ces trucs-là, sociocratie et compagnie, restent des techniques au service des groupes et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des groupes qui en fait appliquent à fond une technique de sociocratie, par exemple, pour prendre leurs décisions, mais à en perdre la spontanéité, à en perdre le fait que les gens se sentent à l'aise, expriment vraiment leur point de vue. Pour moi, on est dans une dérive de ce type d'outils. Donc, pour moi, ça doit rester des outils pour le vivre ensemble, à une échelle locale ou à une échelle plus grande. Et je me rappelle d'un truc dans les assemblées générales des indignés à Bruxelles, il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2011, quand on faisait les grosses assemblées, bah effectivement, il y avait il y avait des personnes qui avaient tapé partout des trucs non à la dictature du consensus. Quoi. Et ils avaient raison, quoi. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on était tous en train de dire, il faut faire ça. Vous ne me voyez pas ça à la radio, mais il faut faire des signes en
et
l'air.
Les mains
en l'air, il faut mettre la main en bas. Il faut faire un T avec ses mains pour faire point technique. Et il y a des gens qui ne rentrent pas là-dedans. Ce n'est pas leur code. Donc, c'est un code qui peut être utile pour certains groupes. C'est une manière de décider ensemble, mais qui parfois peut s'avérer inutile. Et si des gens ont envie de prendre la parole comme ça parfois, c'est bien aussi, quoi.
Ça, c'est un truc que moi je trouve vraiment important. Et pour revenir justement aux expériences que moi j'ai pu voir pendant les reportages qu'on a fait, les expériences qui marchaient le mieux, c'est sans doute celles qui se réinterrogeaient de manière permanente sur le fonctionnement qu'elles avaient et qui n'avaient aucun tabou à tout remettre à plat, à dire ok, on peut repartir sur autre chose. Mm-hmm. On fonctionnait comme ça, mais on arrivait à un nouveau stade, on est en agrandi, où il y a des raisons qui font qu'on doit évoluer et on peut tout changer tant que le but est effectivement de garder justement la gestion collective.
C'est intéressant. Oui, mais je me demande, du coup, ça marche au niveau local ? Est-ce que, au niveau. Enfin, comment est-ce qu'on veut faire pour déjà passer du niveau local ? Et encore, quand je parle local, c'est même pas communal. Là, on parle de. Ouais, communal, ça pourrait. Mais après, au niveau de la région, au niveau de la province, au niveau de la communauté, au niveau de.
Ouais, bien sûr. Ouais, moi j'adore cette question parce que je dis toujours la politique.
La première à avoir posé. Alors.
La politique, ça commence avec son voisin. Hein, de partager un barbecue, pour moi, c'est très politique. C'est le premier pas politique qu'on devrait tous faire. Et la démocratie, je pense qu'elle commence dans un couple et puis qu'elle va au voisinage, au quartier, à la ville, à la région, au pays, au continent, au monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir du micro au macro. Et alors, souvent, les exemples, et c'est ce que Yann et Seb donnaient. Les exemples sont souvent au micro. Je pense, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont souvent au micro ? Parce que, ouais, je pense que les gens se réapproprient la démocratie là où ils peuvent se la réapproprier. On voit bien qu'au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, on se sent totalement, on se demande à quoi ça sert d'aller mettre ce petit bout de papier dans une urne. On se sent dépossédé. Et je pense que la réaction des gens, c'est d'essayer de se réapproprier un processus démocratique, les décisions collectives là où ils peuvent. Et là où ils peuvent, et là où c'est le plus facile, c'est souvent par petits groupes, donc ça commence peut-être même dans sa famille, j'en sais rien, et puis après ça va au travail, dans son assos, dans une ville tout entière, comme à Marina Leda en Espagne, c'est bien ça. Et donc, voilà, ça c'est la raison, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le niveau macro, c'est totalement possible. Alors, certainement pas les mêmes processus, vu qu'on parle d'une échelle différente, l'échelle d'une commune, l'échelle d'une province, l'échelle d'une région, d'un continent, mais il y a des processus possibles, et pour moi, des processus clés qu'on doit remettre en avant, c'est le tirage au sort qui permet une représentation de la population mais qui est une représentation qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît dans les parlements. Dans les parlements, vous y allez maintenant, il y a environ, je vais inventer les chiffres, mais l'idée sera là, il y a 70% de mecs, il y a 85% de diplômés en sciences politiques et en droit, il y a 85% qui gagnent plus de 4000 euros par mois. Ça n'est en rien représentatif de la population belge. Par contre, le tirage au sort permet de créer des petites commissions, des petits groupes qui, eux, et c'est le principe du tirage au sort, représentent le plus fidèlement possible la population.
Et si dans ce tirage au sort, excuse-moi, c'est spontané, alors qu'on n'oublie pas que c'est la parole qui a été demandée par Seb. Et si dans ce tirage au sort, au final, c'est toujours les mêmes, le hasard. Le hasard. Mais le hasard va faire que c'est toujours les mêmes.
Un drôle de hasard quand même. Hein.
Comment ?
Un drôle de hasard quand même.
Oui, mais je veux dire, ça pourrait arriver parce que statistiquement, il n'y a rien de régulier qui est prévu dans le tirage au sort, puisque c'est le tirage au sort, c'est le hasard.
Tout à fait.
Donc le hasard va faire que c'est trois fois toi et jamais moi.
Ou
et,
même...
et moi, je ne me sens pas représenté par toi. Pourtant, c'est le tirage au sort. Finalement, je ne peux pas râler.
Et donc, je comprends totalement cette objection et elle est souvent reformulée dans une autre forme. Il y en a beaucoup qui nous disent, mais si on tire... une assemblée remplie de Marine Le Pen ou de Laurent Louis, et qu'est-ce qu'on va faire de cette assemblée ?
On va bien rire. Si on
va bien rire. Déjà, moi, je répondrais, est-ce que c'est vraiment les meilleurs qui sont au pouvoir ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques-uns des pires ? Ben oui, Laurent Louis, il a déjà été élu, alors qu'il n'a pas été tiré au sort. Marine Le Pen, pareil. Mais la vraie réponse, c'est que tirer au sort, ça ne veut pas dire tirer au sort 50 personnes qui vont décider pour tout le monde. C'est tout un mécanisme à mettre en place, dont la base est le tirage au sort. Mais il y aurait des instances de contrôle, des instances de rejet, des instances faites, comme dans le système normal.
Qui sont les personnes alors dans ces instances ?
Comment on contrôlerait, Pascal
Orsay ? On pourrait retirer au sort une instance de contrôle, par exemple. Et donc, du coup, si vous avez des gens tirés au sort qui décident d'une loi, et puis un autre groupe qui doit dire si cette loi, elle n'est pas folle ou bien c'est vrai, en fait, elle est vraiment bien. C'est un exemple.
Après, ce qui peut être intéressant dans ce domaine-là, bon, je donne mon avis alors qu'à la base, mais...
La mauvaise animatrice.
Non, ça permettrait...
On discute.
Est-ce que ça ne permettrait pas, on va poser ça comme une question, justement, de... parce que ça ralentirait beaucoup le processus, puisque ces gens tirés au sort ne se connaissent peut-être pas, ne font pas du tout partie du même... Non, peut-être pas du tout les mêmes aspirations, les mêmes pensées. Donc, du coup, avant de mettre à plat des règles de contrôle, d'abord, prennent le temps de se connaître... et donc ça ralentirait tout un processus qui ferait que les décisions seraient aussi beaucoup plus lentes à prendre. Et est-ce que ce serait pas plus mal finalement parce que tout va très vite?
Ben oui, mais je pense que
et donc, oui, alors,
tu le dis, ça prendrait plus de temps, mais c'est et dingue de voir le nombre de décisions qui sont prises aujourd'hui dans un temps hyper court.
Oui.
Alors que c'est des décisions super importantes, je veux dire décider d'aller en guerre, décider de sauver des banques, décider de donner le pouvoir économique et financier à une poignée de multinationales. Ils ne mettent pas longtemps. Enfin, je veux dire, ce qui est dingue, c'est que et ça c'est intéressant aussi, c'est que le temps électoraliste nous empêche et empêche les personnes aujourd'hui élues, qui le sont peut-être en partie démocratiquement, mais élus, les empêche de pouvoir penser des solutions sur le long terme.
Oui, oui.
Le temps démocratique, ça dépend de la place qu'occupent ces 6 ans. Comment penser sur le long terme des choses ? Comment penser un mandat ? Qu'est-ce que tu veux mettre en place, une alternative ? Ça fait 100 ans qu'on détricote la planète, 50 ans qu'on détruit les acquis sociaux, et on va tout régler en 6 ans. C'est n'importe quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est clair que, de nouveau, du coup, ce système-là a des limites, rien que par rapport à ça. Et je voulais relever une autre tension aussi, c'est que, on est ici tous les trois aussi issus du village des alternatives, qu'un débat intéressant, une tension qui, pour moi, est permanente et où il n'y a pas de réponse directe, il faut les expérimenter, c'est démocratie actuelle, donc la démocratie représentative, soi-disant, et les alternatives, quoi. Et effectivement, c'est très difficile. Comment aujourd'hui mettre en place un jardin collectif en étant hors la loi ou dans la loi ? Comment aujourd'hui, voilà, c'est la question de la réappropriation vraiment de nos vies. Enfin, pour moi, c'est ça. Comment aujourd'hui mettre en place une monnaie locale tout en n'étant pas en concurrence de l'euro ? Comment aujourd'hui revendiquer au travers de l'occupation de logements le fait que nos pays, soi-disant démocratiques, ont ratifié des conventions pour l'accès au logement pour tous ? Et voilà. Et donc là, il y a une vraie tension. Et donc, c'est clair qu'on va devoir passer par une petite dose d'anarchie, qu'on le veuille ou non, si on veut mettre en place nos alternatives. Mais voilà, donc c'est pour ça que personnellement, moi, j'attends pas que ça vienne d'en haut. Je travaille avec des pouvoirs publics aussi, des administrations, dans mon travail, dans une SBL. Je reconnais qu'elles ont aujourd'hui encore une place. Je ne dis pas qu'elles n'en auront pas demain, mais je pense qu'elles le savent elles-mêmes, que leur place aujourd'hui est limitée, leur rôle est limité par rapport à leur pouvoir d'agir. La première chose que certains élus te disent, européens, c'est « mais on est tranquille, on ne vient pas nous emmerder ». Si, on vient nous emmerder, les lobbies. Mais les gens, enfin nous, le peuple, on les laisse tranquilles. Donc voilà, ça repose cette question-là. Et donc si on les laisse tranquilles, c'est que la manière dont on a tenté d'administrer la vie entre nous, c'est que ce n'est pas la plus représentative qu'elle soit. Mmh.
Pour revenir à cette notion temporelle de la prise de décision, dans des milieux autogérés où tu es allé, Yann, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé plus en particulier ?
Peut-être justement que le débat qu'on peut qualifier de politique, en tout cas le débat sur la chose publique, sur les décisions, il est permanent en fait. Qu'il y a des assemblées de manière régulière et que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois tous les 6 ans. C'est pas des choses qu'on fait une fois tous les 2 ans dans une association. Non, c'est quelque chose qui a lieu de manière régulière. Après, ça peut varier en fonction des collectifs, mais qu'il y a toujours, toute personne est responsable et sans ce sentiment de responsabilité de participer à ces débats. Et il a justement ce droit de pouvoir le faire. Donc il y a ces discussions qui sont là tout le temps et je crois que c'est ça qui est important. Et le tirage au sort, comme Marco disait, je crois qu'il y a cette idée-là aussi de se dire pour que les gens tirent au sort puissent avoir un avis, il faut qu'il y ait un débat public permanent. Et donc, quel que soit en tout cas le mécanisme qu'on peut trouver au niveau de l'ensemble de la société, il faut qu'il y ait un débat public permanent beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui et que tous les citoyens puissent se positionner, en tout cas puissent discuter sur pas mal de choses, sur des sujets qui aujourd'hui sont confisqués par les politiques. Alors, le sujet du moment, c'est le traité transatlantique. Je ne sais pas le pourcentage, mais personne aujourd'hui dans la société est au courant, en tout cas la large majorité, c'est même pas ce que c'est même pas que ça existe. Mm-hmm. Donc voilà, ces sujets-là devraient être au centre des discussions, comme d'autres sujets le sont aujourd'hui, comme la Coupe du Monde, on devrait pouvoir parler des TTIP à table.
Mm-hmm. Sur cette petite notion temporelle, moi j'aurais quelque chose à rajouter. Seb a dit, on part en guerre en quelques jours, et c'est vrai, le gouvernement belge a engagé certaines guerres en quelques jours, et inversement, la démocratie...
Sans gouvernement.
Oui, sans gouvernement, gouvernement d'affaires courantes, tout à fait. Et inversement, la démocratie peut être, sur certains aspects, très très lente. Et moi qui suis conseiller communal, je sais très bien qu'on veut mettre un nouveau goal de foot sur le terrain vague d'à côté. Ça peut prendre jusqu'à 1 an pour installer ce nouveau goal de foot si on veut tout faire dans les règles, comme ça se fait. Et la petite conclusion que j'ai à ça, c'est que moi, que la démocratie prenne du temps, franchement, j'en ai rien à faire parce que je pense que la démocratie est plus importante que le temps de la décision. Et c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit « Mais Marc, tu vas voter, on va couper des arbres pour imprimer les bulletins de vote. » Mais je lui dis « Ta gueule, quoi !» Moi, je trouve plus important d'aller voter et de participer que les quelques arbres qui sont sacrifiés pour aller voter. La démocratie, elle demande du temps, elle demande de l'énergie, elle demande de l'argent et on doit être capable de mettre cette énergie.
Alors clairement, on ne va pas changer le système en 2 temps, 3 mouvements. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un outil peut-être déjà à promouvoir au niveau pas uniquement communal comme ça se fait déjà, c'est peut-être le référendum. Donc où chaque citoyen peut s'exprimer sur un sujet particulier d'ailleurs et qui le touche et qui pour l'instant, je crois qu'il est... Là, je me trompe peut-être, c'est mes cours de droit public.
Ça vient de changer avec la réforme de l'État, donc attention, je vous écoute.
Aïe, aïe, aïe. Donc, moi, il me semble que c'était au niveau, justement, communal, où les référendums étaient possibles, mais pas au-delà.
Ouais. Donc, pour faire juste un petit point factuel et technique, donc en Belgique, on peut faire non pas des référendums, dont la décision, si c'est un référendum, le politique devrait obligatoirement suivre l'avis des citoyens. Ouais. En Belgique, il n'y a aucun référendum, c'est maximum consultation populaire.
C'est anticonstitutionnel, je pense, en Belgique.
C'est ce qu'on dit, oui.
C'est ce qu'ils ont dit à la TV à l'époque. Voilà.
Et donc maintenant, en Belgique, actuellement, on peut organiser des référendums au niveau de la commune, de la province, et bientôt au niveau régional, grâce à la 6e réforme de l'État. Sur le référendum, moi je suis quelqu'un assez contre le référendum, ou en tout cas j'ai envie qu'on comprenne les raisons pour lesquelles je suis contre. Le référendum, c'est ce qui peut nous paraître le plus démocratique. Pourquoi ?
Au niveau participatif.
Un citoyen, une voix, et on décide. Magnifique. Et pourtant, je suis absolument contre ce système parce que ça oublie une dimension essentielle de la démocratie, qui est celle du débat. Et il y a un chercheur américain qui s'appelle Fishkin qui a très bien démontré ça. Vous allez dans la rue, vous allez demander aux gens « Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?» Avec un peu de malchance, vous tombez sur 60% des gens qui vont vous dire « pour ». Et donc, si on fait un référendum sur la peine de mort, les politiciens vont vous dire « Non, surtout pas, on va la réinstaurer, on a peur ». Et donc, moi, je pense que c'est vrai, c'est possible qu'on arrive à cette conclusion-là. Mais la dimension qu'on oublie, c'est le débat. Et ce fameux chercheur Fishkin aux États-Unis, il a montré quoi ? Que quand on fait discuter les gens ensemble, quand on leur présente des avis d'experts, quand on leur fait témoigner quelqu'un condamné à la peine de mort, une famille de victimes de quelqu'un qui a tué, qui a mérité la peine de mort, et bien à ce moment-là, on se rend compte que les gens changent d'avis. Et la démocratie, c'est une dimension essentielle. On doit être capable de changer d'avis, de se forger un avis réfléchi. C'est pas ce que je pense maintenant, comme ça, quand je passe dans la rue. C'est je débat, je confronte mon opinion avec
celui
des autres.
Est-ce que c'est pas ça, la démocratie, prendre en compte les minorités ? Pourquoi ? Parce que 63 personnes sur 100 ont dit que, oui, ils étaient pour la peine de mort. Pourquoi est-ce que, justement, l'idée serait pas de prendre en compte les autres ?
C'est intéressant. Ouais. Effectivement...
C'est pas ça, la démocratie ?
Non, actuellement, on dit que la démocratie se départage à la majorité. Donc, il faut la moitié des voix plus une. Moi, je pense que la moitié des voix plus une, c'est le moins mauvais système. Mais il y a des meilleurs systèmes. On a parlé du consentement tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que la moitié des voix plus une, on va faire que personne n'est absolument contre. Tout le monde est capable de vivre avec la décision. Ou encore mieux, si c'est une décision pas trop compliquée, le consensus. On est tous d'accord sur la décision. Mais... À un moment, s'il faut trancher et qu'on n'arrive pas à trancher autrement, ce sera, selon moi, la moins pire des méthodes, c'est la moitié plus un. Mais c'est certainement pas la meilleure.
Seb ?
Moi, très court, hein, je voulais juste dire que la prise de décision, comme il le dit, c'est un truc, c'est pas simple. Mm-hmm. Ça prend du temps, quoi. Et aujourd'hui, on a simplifié vraiment la vie ensemble en termes de décision politique, alors qu'en fait, ça prend du temps, c'est pas simple, il faut débattre, il faut de la confrontation, il faut du conflit, il faut de l'opposition d'idées, il faut apprendre à se connaître, c'est pas le cas. Enfin, tu connais Dirupo, toi, Déborah ?
C'est le mec qui a des cheveux d'un papillon.
Non, mais on les connaît pas, ça veut dire quoi ? Enfin, comment on décide ? Y a rien, on sait pas, ça prend du temps.
On décide déjà, on nous demande de voter pour des gens qu'on ne connaît pas, en effet, qui en plus on ne connaît pas leur vie, donc on ne sait même pas d'où ils viennent, ni rien, quelles sont leurs idées finalement, c'est leur programme est finalement lissé.
Oui, et j'ai un très bon exemple, en fait, pour la petite histoire, c'est un hasard, parce qu'il y a 2 heures, je ne savais pas que je participerais à ce débat, mais soit... Je reviens d'avoir passé une petite semaine en France, dans un village qui s'appelle Saillant. Vous tapez Saillant sur Internet, vous allez voir des milliers d'occurrences, d'articles ou de... Enfin, des milliers, j'exagère peut-être. C'est S-A-I-2-L-A-N-S. Voilà, les animatrices sont en train de vérifier en direct ce que je dis, c'est très bien. Et en fait, c'est une des villes qui est la plus proche aujourd'hui en termes de modèle de Marina Leda. J'ai été dans l'Alter Village de Attaque France pendant quelques jours là-bas. Et ils sont en train d'expérimenter de manière concrète des alternatives, la démocratie représentative. Et ça prend du temps. Et en fait, ils ont fait leur première réunion. C'est un village de 1200 habitants. Et leur première réunion, ils ont invité. Ils s'attendaient à avoir 40 personnes. Ils en ont eu, je pense, 120, un truc du style. Et la première réunion, c'était on va faire le programme ensemble. Le programme électoral des dernières élections en France, quoi. Mmh. Et donc, ça montre bien aussi, là, ils ont fait preuve d'intelligence collective, ils ont utilisé des outils d'éducation populaire et ils ont construit le programme ensemble, quoi. Alors, c'est pas simple, hein, c'est plein de limites. Le maire, il nous expliquait plein de trucs super intéressants. Ça prend effectivement énormément du temps. La difficulté, c'est aussi pour eux d'arriver à se dire, OK, nous, sur la commune, on fait ce qu'on veut. Mais en France, par exemple, il y a les intercommunales, enfin les communautés de communes, les communautés de communes, qui a un autre pouvoir de décision. Et donc, ils disent, nous, sur la commune, quelque part, on fait ce qu'on veut, façon de parler avec les habitants dans ce système-là. Mais dès qu'on sort, on a des mandats, on est maire... Mais on représente la commune dans telle représentation qui, eux, restent dans le système démocratie soi-disant représentative. Et donc, c'est pas simple. Et effectivement, ça prend du temps. Il y avait Yann qui voulait parler. On lui a saboté la parole depuis 10 minutes, le pauvre.
Non, on a changé de sujet.
Tu voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé avant ?
Moi, j'étais sur le référendum. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec Marc qu'aujourd'hui, si on fait un référendum en Belgique, comme ça, et c'est ce qui arrive par exemple en Suisse, il y a sans vraiment de débat, sans vraiment d'information, et s'il n'y a pas vraiment un processus délibératif pour arriver, généralement on arrive à des décisions qui ne sont pas celles que nous, en tout cas, on voudrait qu'elles soient prises. Et pourtant, il y a quand même des exemples qui prouvent que c'est possible d'avoir un débat à l'échelle d'une société. Il y a eu le référendum en France sur la Constitution européenne.
Bah oui,
malgré tout, il y a eu un vrai débat national qui s'est organisé. Pas mal d'associations, enfin dans tous les sens, tout le monde s'est mobilisé pour essayer de faire entendre les arguments. Et la décision qui est sortie, c'est pas celle du tout à laquelle tout le monde s'attendait. tout le monde s'était dit, bah voilà, c'est impossible que les citoyens comprennent ce gros truc. Bah, pas mal de citoyens l'ont compris et ont voté contre. Donc je crois que c'est possible, mais ça suppose une mobilisation incroyable et l'énergie qui a été mise là-bas. C'est bien parce que c'est un événement extraordinaire. Il faudrait trouver des mécanismes pour que voilà, ce débat soit permanent et qu'à chaque fois, il ne faille pas déployer autant d'énergie parce que ce n'est pas possible ça, à faire à terme. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un débat à grande échelle, oui, délibératif, vraiment.
Que la parole soit donnée beaucoup plus régulièrement et qu'on ne soit pas obligé d'exploser tous dans les rues une fois par an.
Au moins qu'on écoute ce qui se dit dans la rue également. Donc de toute façon, est-ce que aujourd'hui, je crois que les citoyens sont prêts à donner leur avis et un avis éclairé, si tant est qu'on puisse en discuter, on puisse avoir un débat, puisse se rencontrer, et tout ce qu'on espère, c'est que la sphère au-delà puisse un jour se dire que en effet, la population n'est pas ignare. Et donc, il ne faut pas obliger la population à voter pour qu'elle fasse un vote éclairé. Et que donc, finalement, le citoyen lambda n'est pas qu'une personne à assister.
Ce n'est pas qu'un bulletin de vote.
C'est très joli. Si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est même très optimiste. Moi, je suis un peu plus pessimiste sur le fait que les citoyens soient prêts. Et je prends l'exemple d'un endroit par lequel on est tous passés, c'est l'école. Et je pense que, et en plus, je parle en tant que prof aussi, je pense qu'il y a, s'il y a
mais
bien...
tu cumules, toi, hein, t'es conseiller communal et prof. Quoi.
Ouais, malheureusement, conseiller communal, c'est pas un métier et je veux certainement pas en faire un métier. Hein. Seb l'a très bien dit tantôt, faire de la politique, c'est tout le monde. Et donc, dans les écoles, je pense que c'est bien un endroit où on apprend à ne pas décider, à se laisser... Allez, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles où l'agenda est géré un peu par les élèves, où le règlement est décidé un peu par les élèves, etc.
Oui, il y a les écoles Freinet.
Exactement,
il y a les pédagogies actives.
Quelques écoles alternatives, hein, vraiment, qui se comptent sur les doigts de la main.
C'est très compliqué de mettre en place une autre école. Il y a un exemple, j'ai plus le nom en tête, mais à Bruxelles, de gens qui essayent de lancer une autre école sur un autre modèle éducatif.
Mais je pense que c'est très compliqué. Et en même temps, si tout le monde sortait d'une école pareille, je pense que la démocratie aurait déjà changé parce que ces gens-là qui ont appris à savoir décider ensemble, à s'autogérer, à réfléchir par eux-mêmes, sont des gens très exigeants en termes de démocratie, souvent.
Mais
c'est un beau mot de la fin.
Quelques mots chacun.
Seb
et Yann, un petit mot pour conclure.
Et non, peut-être de dire d'où vous venez aussi. Hein.
Ouais, moi c'est un dernier. En fait, je vais donner un exemple. Bon, finir sur la note positive, ça serait qu'il y a plein de gens qui expérimentent plein de manières de vivre ensemble différentes, de gérer leur vie, leur alimentation, leur logement, leurs économies, leur vie de famille, leur rapport avec les autres, leur vie affective et autres. Moi, je voulais juste donner, parce que ça m'a, j'ai lu ça justement dans le train hier en revenant de France. Il y a un petit bouquin qui s'appelle « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» Point d'interrogation. Ça vient de Fakir Éditions. C'est un mec qui s'appelle François Ruffin, lié notamment à l'émission radio là-bas si j'y suis. Feu, émission d'ailleurs, qui a été
bientôt
lâchement viré par le nouveau directeur de France Inter. Ce bouquin est intéressant. Et alors, il y a un super article qui explique très bien dans un journal qui est partout sur les trucs dans le village des alternatives, comment est-ce que l'Europe s'est constituée, comment l'Europe s'est créée. Et qu'en fait, on nous bassine aujourd'hui que c'est la démocratie et l'Europe, c'est du vent total. On a filé la main à des lobbies, à des groupes industriels, à des banquiers, à des gens qui avaient des groupes d'intérêt très très privés. Et l'émergence du traité transatlantique aujourd'hui n'est qu'un truc qui avait été pensé, imaginé, pas sous cette forme-là, mais il y a 30-40 ans. Et donc, il faut le savoir. Et donc, il faut arrêter de nous dire que vous êtes légitime. J'ai posé la question au directeur de cabinet de Karel de Gucht il y a quelques semaines, quand on a fait une manif improvisée avec l'Alliance des 19-1 sous le bâtiment de la commission du Charlemagne. On lui a posé la question avec les producteurs de lait et certains syndicats. Est-ce que vous vous sentez légitime? Ils nous ont répondu oui. Ils ne sont plus légitimes aujourd'hui. Voilà.
C'était Seb de Rencontrer Continent. Yann de Hadès.
Moi, peut-être pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, la démocratie, elle se vit partout, à tous les niveaux, on l'a dit. On a dit qu'à l'école, on peut effectivement apprendre peut-être à être plus participatif, en tout cas avoir ce critère en tête de manière permanente. Mais je crois qu'on peut tous, partout où on est impliqué, essayer d'avoir ce regard-là, essayer d'apporter de nouveaux mécanismes. Et je crois que déjà, ça changera les choses si quand les gens passent comme bénévoles dans des associations, elles sont gérées réellement de manière démocratique. On est super exigeant par rapport au processus participatif. C'est dans les boulots qu'on peut créer... On crée aussi dans les employés qui partent dans des associations, elles sont aussi autogérées. C'est toutes des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui, sur lesquelles on a du pouvoir. et bien là, ça peut vraiment peut-être apporter des choses à plus long terme en termes de processus éducatif sur la démocratie.
Et alors, Yann non, Marco, pardon, c'est Yann, il est Marco. À
droite. Oui, je ferai très court, je ferai un petit big up à 48-20, disons. Et puis, je dirais, dans la même mouvance que Yann, quoi. Réunissons-nous, débattons, bougeons-nous, vulgairement, tirons-nous les doigts du cul. Je pense que cette démocratie, elle a besoin qu'on la fasse bouger. Et si on veut une démocratie réelle, ça dépend de chacun de nous.
Est-ce que Hubert est d'accord? Parce que Hubert est en studio pour
Écoute,
la suite.
Écoute, je débarque, a priori, ça me semble bien. Ça me semble assez positif et dans la direction... Ouais, et voilà. Et je pense qu'on va passer vers quelque chose de plus culturel, là, maintenant.
Oui, mais bien sûr.
C'est ça qui est prévu?
Oui, c'est bien ça qui est prévu.
Pardon. Alors, on aura Palenque Soul Tribe qui va venir en studio, groupe colombien, électrocumbia colombienne. Et ils sont prêts. Donc, je les appelle. Je pense qu'on se passe un petit morceau si le technicien a déjà préparé.
On va juste remercier donc Sylvain Legrand,
qui est parti en courant,
à la technique.
Merci Sylvain.
Il y a Sébastien de Rencontrer Continent qui est parti en courant, pas parce qu'on lui a fait peur, mais parce qu'il devait y aller. Et donc, Marco et Yann de Hades. Merci Clarita aussi.
Eh ben, de rien, avec plaisir. Merci comme à chaque fois.
Un grand plaisir. Demain,
merci
ce
à toi,
sera...
Déborah.
On verra.
Merci
Clarita. Ciao, ciao.
Merci.